Radio BLV, Grand Direct. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun chacune. Nous voici revenus en direct des rencontres de Chabeuil, rencontres de la photo de Chabeuil 2019. On était déjà là l'année dernière. Bonjour Véro d'abord.
Bonjour Sylvie.
Voilà, on est, vous êtes à la fois, nous sommes en direct à la fois sur Radio BLV et sur Déclic Radio, comme souvent dans nos grands directs. Et je suis avec Christiane Miro de Clic Image, la grande coordinatrice de toutes ces rencontres. Bonjour Christiane.
Bonjour Christiane. Pardon, on n'a pas eu Christiane parce que le micro tout simplement n'était pas ouvert. Voilà, c'est le calage du démarrage.
Ah voilà, c'est mieux là.
Ça y est.
Alors bonjour Christiane.
Bien. Bonjour.
Voilà, oui, on entend le bonjour tonitruant de Christiane. Et nous sommes aussi avec Kyriakos Kaziras qui est l'invité d'honneur de cette édition 2019. Bonjour Kyriakos.
Bonjour Sylvie.
Enchantée. Et alors on va parler de Kyriakos, on va explorer l'univers de Kyriakos après, mais avant on va lancer quand même ce grand direct avec Christiane. Les rencontres de la photo de Chabeuil, c'est la 19e édition. Voilà, 19e édition. Alors ceux qui sont fidèles à Radio BLV ont déjà entendu Christiane en parler. Cette 19e édition, elle a démarré hier officiellement, puisqu'il y a le vernissage, l'inauguration a eu lieu hier soir, et ouverture au public à partir de ce matin, et c'est jusqu'à dimanche, avec une ouverture, une ouverture au public toute la journée.
Week-end 10h-19h et la semaine 15h-19h. Alors, hier au soir, nous avions le vernissage, mais la soirée d'ouverture, c'est Kyriakos qui l'a faite avec une conférence fort dynamique et agréable.
Très bien. Voilà, plein de compliments et je crois qu'il y avait beaucoup de monde aussi.
Oui, 162 personnes.
Donc, chouette démarrage.
Plein. Voilà.
Un démarrage sur les chapeaux de roue pour cette 19e édition. Comme d'habitude, on retrouve des expositions un petit peu partout dans Chabeuil.
Oui, dans Chabeuil, dans plusieurs lieux, et ainsi qu'au Serre, où il y a 8 expositions. C'est à 6 km de Chabeuil, 6 km de Valence. C'est juste
voilà,
au milieu.
C'est juste, voilà, quand vous venez de Valence, vous ne pouvez pas louper. Quand vous venez de Valence, vous vérifiez, c'est sur votre gauche. Donc, voilà.
Avant l'aéroport.
Juste avant l'aéroport, c'est pas compliqué à trouver, puis c'est très bien indiqué. Il y a de très belles choses à voir là-bas aussi. Ailleurs aussi, à l'école communale par exemple, qui est un nouveau lieu, je crois.
Oui, c'est un nouveau lieu temporaire, mais comme ce lieu, cette ancienne école est devenue la maison des associations, on a pu nous prêter 4 salles, donc là il y a 4 expositions.
Voilà, sinon on retrouve les lieux
habituels.
Les lieux habituels, Auriel, Cluny, la porte monumentale.
La rue des Remparts, où il y a un lieu supplémentaire aussi cette année, puisque un particulier nous a prêté une salle ici. Dans un joli parc, tout, c'est très beau.
Donc voilà, venez découvrir. Et puis au centre culturel, comme toujours aussi, on retrouve l'exposition Clic Image. Alors on peut peut-être parler un petit peu de cette exposition aussi avec la thématique de l'année.
Et ben cette année, enfin notre sujet, nous on le choisit un an avant. Et cette année, on avait choisi à la manière de. Donc ça démarrait assez douloureusement parce que personne ne savait trop, c'est trop compliqué, c'est ça. Et puis finalement, ça s'est décanté, on y est arrivé. Et justement, depuis hier, certains photographes sont passés et nous ont dit que c'était très réussi. Alors c'est agréable parce qu'on avait un petit peu... C'est pas évident de travailler à la manière d'eux.
Non.
Parce qu'il ne faut pas copier. Parce que le but, c'est pas de copier, c'est de...
Vraiment à la manière d'eux, voilà.
Et donc, cette année même, on a 105 photos. Dont des grands formats, parce que nous, on travaille et après, on donne notre travail, notre sélection propre, on la donne à un jury extérieur.
De façon
que ça ne soit pas nous qui choisissons, parce qu'entre copains, ce n'est pas facile. Et donc, la sélection, elle se fait toujours par... y a un photographe, quelqu'un qui est dans l'art, ça peut être un peintre, tout, et donc c'est eux qui choisissent. Donc, ça veut dire qu'ils ont bien choisi aussi.
Parfait. Donc, venez découvrir à la fois au centre culturel ces photos de Clic Image. Il y a aussi... Vous pourrez vous faire tirer le portrait aussi au centre culturel. Il y a aussi l'exposition de Jaime Muñoz qu'on aura tout à l'heure. Et puis il y a les portraits pop-up qui ont été réalisés l'année dernière par Philippe Ordioni et Rodia Bagino, qui sont exposés et que voilà que vous pouvez
Ben nous,
aussi découvrir.
Ce qu'on a fait, c'est que au club on les a attirés. Et puis les gens qui sont venus l'année dernière, qui se sont fait photographier, peuvent venir leur chercher leurs photos.
On doit y être, Sylvie.
Oui, absolument.
Ah oui, vous y êtes. Vous pourrez récupérer votre photo.
Très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Christiane, pour ce démarrage.
Merci.
Et puis, ma longue vie, j'espère que tout va bien se passer. Et de toute façon, tout se passera bien, c'est sûr.
Oui.
Nous, on est ici jusqu'à 16h. Donc, on a le temps, on va prendre le temps cette année de découvrir différents photographes qui sont présents sur ces rencontres et puis avoir on avait lancé l'année dernière l'histoire de donner une musique, un morceau de musique pour illustrer, on va dire, l'univers de la photographie. Alors, il se trouve qu'avec l'invité d'honneur, il y a eu un petit souci technique. Les mails ne sont pas arrivés. Donc, il n'a pas pu nous donner son morceau. Donc, il a fallu prendre quelque chose. On a pris un morceau de Muse qui s'appelle Animals. Tout simplement parce qu'effectivement, on va parler de photos animalières. On n'est pas allé chercher très, très loin. On s'en excuse. Nous voici revenus en direct des rencontres de la photo de Chabeuil, 19e édition. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions la chance d'être avec Kyriakos Kaziras, qui est l'invité d'honneur de cette 19e édition. Alors, Kyriakos, c'est effectivement, j'ai parlé de photographie animalière. Tu es ici avec deux très très belles expositions, White Dream et Elephant Dream. Donc, on est dans le rêve. Très bien. Donc, on va essayer de rêver ensemble, mais cette photographie animalière, ça n'est pas que ça ton travail, puisque tu as aussi eu un très beau travail sur les villes. Alors, est-ce qu'on peut dire que entre les grandes étendues, les vastes étendues naturelles et les villes, il y a un pont finalement ?
Bien sûr qu'il y a un pont. Déjà, entre l'Arctique et l'Afrique, ces deux univers complètement opposés, mais j'ai besoin de deux lumières différentes pour trouver un équilibre photographique. Et il y a les liens de ces deux univers, ce sont les villes qui se trouvent entre les deux.
Entre les deux, très joli. Ce sont les passerelles du coup entre Exactement. Les deux mondes. Alors, Kyriakos, tu es venu à la photo. Je crois que c'est dans l'enfance que la passion pour la photo est née. En tous les cas, le goût pour la photo est né grâce à tes grands-parents, il me semble.
Oui, mon grand-père paternel était peintre et maternel passionné des photos. Et j'essayais de combiner les deux arts. J'avais essayé la peinture, j'étais mauvais. La photo, j'étais pas bon. Et quand on a 12 ans, on a qu'une seule envie, c'est de sortir avec les copains, jouer au football, oui, et courir dans les rues, que d'étudier la peinture ou la photo. Et je suis revenu par la suite quand j'avais 20 ans.
D'accord. À la suite d'études littéraires, je crois que tu es parti dans
à la suite de...
d'études littéraires.
J'ai appris le français en partie à Genève et une autre partie à la Sorbonne.
D'accord.
J'aime beaucoup la littérature française.
Oui, parce que ce joli accent que vous entendez, et ça, c'est toujours, moi, je trouve ça toujours super agréable d'entendre des accents à la radio. Tu es franco-grec.
Oui.
C'est ça. Et tu es né en Grèce ou né en France?
Je suis né en Grèce.
D'accord. À quel endroit?
Athènes.
D'accord. Alors, tu parles de lumière, tu parlais de lumière tout à l'heure, que ce soit dans l'Antarctique les deux extrêmes, en tous les cas, au niveau de lumière, justement, entre la lumière blanche et la lumière très, très franche, très, très. En Grèce, il y a une très, très belle lumière aussi.
Oui, mais il n'y a pas d'ours polaire, ni d'éléphant. J'aurais préféré photographier les ours polaires à Mykonos au bord de la plage, mais malheureusement, il faut aller dans le froid.
Mais peut-être que c'est justement d'avoir baigné dans cette très belle lumière, ça t'a donné ce regard particulier justement que tu portes. Et parce que tu parlais de lumière, c'est vraiment un travail de lumière. C'est de la photo animalière, ce sont des photos absolument magnifiques, effectivement, qui mettent en valeur les animaux, mais pas que. Il y a vraiment ce travail de lumière et de matière, parce qu'on est vraiment sur les deux aussi. On a la matière de que ce soit la peau des éléphants, que ce soit que ce soit la fourrure des ours. On a l'impression que notre regard touche, voilà, on ressent par le regard le granuleux ou le doux. C'est vraiment une. On pourrait presque parler de photos. C'est une photo très sensuelle, très 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 organique comme ça finalement. C'est vraiment ton travail. Il s'est fait autour de quoi?
Alors, et sur les éléphants, j'aime beaucoup Soulage, et j'ai voulu reproduire ces tableaux que j'ai trouvés sous la peau des éléphants, avec un noir très structuré, lumineux, magnifique. Et j'ai essayé de reproduire des tableaux de Soulages avec les éléphants.
C'est exactement ça. Alors voilà, on n'en avait pas parlé avant et c'est très très juste en tous les cas.
Et sous les ours polaires, c'est vraiment le minimalisme, le blanc sur blanc, où il y a juste les yeux et les museaux qui ressortent comme un dessin.
Donc le peintre que tu disais être mauvais quand il était petit, finalement, il n'est pas loin quand même. Et je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça.
Mais pas avec des pinceaux.
Mais pas avec des pinceaux.
Bon, j'essaye, ça va un peu mieux maintenant au niveau peinture, mais j'ai beaucoup de chemin à faire.
Alors qu'est-ce qui t'a fait choisir justement ces animaux et pas n'importe quels animaux? Et je crois qu'il y a eu un voyage au Zimbabwe, il me semble, qui a fait basculer un peu ta pratique.
Pour les ours polaires.
C'est pas au Zimbabwe, ça, c'est sûr.
Non, ça c'est. Non, c'est un peu plus au nord. Pour les ours polaires, c'était. J'aimais beaucoup les ours en peluche. Et pour moi, les ours polaires, c'était comme dans mon imaginaire d'enfance, quelque chose de doux, de tendre, et ce que j'ai voulu reproduire. Très blanc, très épuré, très doux. Et sur mes photos, c'est la tendresse et des ours en peluche.
Oui, et en même temps, on voit leurs crocs aussi, on voit leur vraie nature d'ours. C'est pas des peluches complètement.
On voit jamais la. Je ne photographie jamais quand ils baillent ou quand ils ont la bouche ouverte. C'est comme en Afrique, c'était sur les éléphants. Ça, quand j'avais 7 ans, mon grand-père maternel m'a offert une photo d'un éléphant. Et dans ma tête, je l'avais trouvé magnifique, sublime. Et dans ma tête, jusqu'à l'âge de 10 ans, l'Afrique était en noir et blanc et les animaux étaient en noir et blanc.
C'est joli, ça.
Et en gros, c'est en quelque sorte, c'est un hommage que je voulais rendre à mon grand-père maternel avec ce travail sur les éléphants.
Et alors, ces deux séries que vous pouvez voir donc à Chabeuil, je vous rappelle, hein, c'est à l'espace Auriel au premier étage. On a cette grande, grande chance d'avoir ces deux séries. Ce sont des très grands formats. Ça aussi, c'est un choix particulier.
Oui, parce que c'est pour donner vraiment toute la dimension monumentale d'un éléphant. Si c'est en petit, on ne se rend pas compte. Et ce sont des photos qui font 1m40 la plupart, et des larges, sur 1 mètre de haut. Et à l'extérieur, on a avec Canon France, qui me suit depuis des années, on travaille beaucoup ensemble, on collabore énormément. Ils ont imprimé une bâche qui fait 7 mètres sur 5 mètres, un éléphant. Et quand on est devant, on se sent tout petit.
Oui, sûrement. Et on peut l'avoir où d'ailleurs ?
Pardon ?
On peut l'avoir où ?
C'est à l'exposition, mon exposition, à l'extérieur de mon exposition, d'accord. Sur les murs extérieurs.
Ah ben alors autant pour moi, c'est que je ne suis pas passée, voilà, je suis pas passée complètement partout et par l'extérieur, je suis pas passée de ce côté-là. Donc à voir, c'est bien parce qu'il reste encore plein de choses à découvrir sur ces rencontres de la photo. Le Kyriakos, c'est un travail, j'imagine que vous l'entendez, c'est un travail de créateur. On parlait de peintre, c'est un vrai travail. Il y a une vraie démarche artistique, mais ce sont aussi des photos animalières au sens premier du terme, vraiment où tu magnifies les animaux. On a des portraits, ce sont véritablement des portraits. Combien de temps pour certaines, comment ça se passe? Il faut être extrêmement patient, j'imagine.
Les temps, c'est la différence entre un professionnel et un amateur, c'est le temps surtout. C'est que j'ai beaucoup de temps. Et je procède. C'est pour moi un travail photographique, c'est comme un travail cinématographique. Et un metteur en scène, il ne prend pas sa caméra et dit « je vais tourner un film ». Il a une histoire à raconter. Il a un storyboard à suivre. Mm-hmm. Et ce que je fais aussi, c'est qu'avant de commencer un projet, j'ai une idée, j'écris l'idée, j'essaie de dessiner des images que je voudrais réaliser, et ensuite, j'essaie de les réaliser. Et sur les animaux, sur les ours ou les éléphants ou les autres animaux, et je fais un casting.
D'accord.
Comme les top modèles.
Ouais.
Sur les éléphants, par exemple, la plupart des éléphants, ils ont des défenses cassées, abîmées, et je ne photographie pas. Je photographie vraiment les éléphants, pour moi, dans ma tête, parfait, avec des belles défenses, des oreilles bien. Et pour les ours, c'est la même chose. Et ce qui prend beaucoup de temps. Et en principe, sur un projet de 70 photos, je mets pratiquement 6 ans.
Oui.
Et sur 6 ans, je passe 2 mois par an en Arctique et pratiquement 4 mois par an en Afrique.
D'accord. Oui, c'est quand même donc. Et alors physiquement, c'est pareil. C'est deux extrêmes, voilà.
Physiquement, ça va.
Ça se passe bien.
Je ne suis pas un aventurier. Je ne pars jamais à l'aventure.
Oui,
je suis toujours avec des guides locaux.
Et puis il y a une équipe. Il y a une équipe avec toi. Comment ça se passe?
Non, j'ai pas les moyens de payer une équipe parce que tout est financé par moi. S'il y a des bénévoles qui veulent venir,
ils sont les bienvenus.
Oui, mais
alors
j'ai beaucoup de gens qui veulent venir, mais
c'est la question financière. Comment est-ce que vous arrivez justement à financer votre travail? Parce que c'est quand même beaucoup d'investissements, j'entends dans la description que vous faites, d'engagement quoi, personnel, mais financier aussi.
Maintenant, je peux vivre avec la vente des photos.
Voilà.
Ça fait depuis quelques années.
Et puis il y a les livres aussi.
Les livres, c'est pas ce qui me fait vivre. C'est juste une carte de visite. Et j'expose dans plusieurs galeries. Et c'est la vente des photos d'art qui me permet d'investir de nouveau dans les voyages. Comme je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de crédit. Tout mon argent passe dans les expéditions. Et au départ, j'avais un autre travail parce que je ne pouvais pas vivre de la photo. Et je concevais des décors pour les grands magasins, pour les vitrines des magasins. Et ensuite, au départ, c'est ma famille qui m'a aidé un peu. Mm-hmm. Et ensuite, puis, voilà, tout doucement, ça...
Maintenant, l'oiseau vole de ses propres ailes. Et,
l'essaye.
Alors, il y a une question par rapport, alors là, je vais être un peu plus technique, mais vraiment, venez voir cette exposition, bien sûr, parce que la photo, on en parle, mais la découvrir par les oreilles, j'espère que ça vous met l'eau à la bouche, mais il faut vraiment venir la voir. Il y a une image dans l'exposition côté ours polaire, où on voit un reflet d'ours dans la banquise, enfin, dans l'eau. Est-ce qu'on peut soulever le voile? Et bon, je sais bien qu'on ne demande pas à un magicien d'expliquer ses tours, mais comment elle a été faite, cette photo?
Je ne suis pas magicien, je suis photographe, alors je peux vous expliquer. Il n'y a aucun tour. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette photo fait partie de mon prochain travail.
D'accord.
Mon nouveau travail, il y aura une série sur les reflets. Et c'est un nouveau livre qui va sortir dans un mois et demi. Mm-hmm. Et il aura à peu près 80 photos. Et ce sont beaucoup de photos de reflets. Et cette photo, que vous voyez, c'est un ours polaire qui était assis sous la banquise, mm-hmm. mais à la lisière de la mer. Mm-hmm. C'était sur un bateau. Et j'ai vu son reflet dans la mer. D'accord. Les nuages qui reflétaient aussi. Il avait quelques morceaux de glace qui se promenaient. Et j'ai photographié quel reflet.
D'accord. Et donc, toi, tu étais sur un bateau, oui. En fait. Là, j'arrivais pas à voir comment c'était possible. Ça fait partie des très belles choses que vous pouvez voir. Venez vous régaler les oreilles, aiguisez vos curiosités, on ne dira jamais assez. Mais Kyriakos, est-ce que tu es là toute la semaine? Non, tu es là aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez rencontrer Kyriakos, qui en plus est, comme vous pouvez l'entendre, quelqu'un d'absolument adorable et très très abordable. Les gens qui étaient là hier ont tous vraiment apprécié la conférence. Venez jusqu'à ce soir, il sera là pour vous expliquer, vous présenter son exposition.
Je pourrais répondre à toutes les questions.
Très bien, mais merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir invité.
En tous les cas, et puis longue vie.
Merci.
Nous revoici en direct des rencontres de Chabeuil, des rencontres de la photo 2019 de Chabeuil. Et on continue notre voyage en photographe avec Justine Darmon. Bonjour Justine.
Bonjour Sylvie.
Alors, Justine Darmon, qui présente les lames de l'âme, c'est le titre de l'exposition, tout un monde, au Serre Gaillard. Alors, le petit sous-titre de cette exposition, c'est réinterprétation des arcanes majeures des tarots divinatoires, comme son nom l'indique, si on veut bien parler de l'âme et d'âme aussi. Alors, Justine, avant de parler de l'exposition, j'aimerais bien savoir un petit peu, toi, comment tu es venue à la photo.
Alors, la photo, c'est une longue histoire d'amour, parce que j'ai commencé à prendre la photo vers 15-16 ans. Et vers 16 ans, 17 ans, mais ma grand-mère m'avait offert son vieux Rolleiflex. Et mes parents m'ont offert un Nikoné-feu d'occasion en argentique, avec lequel j'ai pas mal baroudé. Puis j'ai appris le développement argentique. Je passais tous mes week-ends dans mon labo. Dès que j'avais 2 heures de libre, je m'enfermais dans ma pièce noire. Et puis j'ai voulu au départ, alors j'ai fait du nu, puis j'ai voulu faire du reportage de guerre, donc j'étais partie en Algérie avec une copine, mais à l'époque 19 ans, complètement inconsciente, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais absolument pas faite pour ça, que c'était très violent, et que non, moi, prendre en photo des morts, pas possible. Donc j'ai finalement, mes parents m'ont dit non, attends, photographe, t'es bien gentil, mais il faut faire un vrai métier. Donc je suis devenu DRH pendant une vingtaine d'années, en continuant la photo à côté. Puis j'ai fait ce métier très sérieux pendant des années, ce qui m'a quand même permis d'être très attentif aux hommes, à leurs sentiments, à leurs réactions. Parce que quelque part il faut sonder leur âme, notamment quand on les recrute ou même quand on doit faire face à des situations de crise. Jusqu'au jour où j'en ai eu ma claque, parce que dans un contexte économique difficile, on vous demande la plupart du temps de faire des plans sociaux, et moi ça je n'y arrivais plus. Donc j'ai arrêté et je me suis lancé dans la photo en me disant bon, je me laisse 2 ans, et puis si on me jette des tomates, ben j'arrêterai.
J'ai replanté.
Voilà, j'ai replanté, ou je sais pas, j'élèverai des chèvres. Et puis finalement, dès la première année, j'ai fait 3 expos, ça s'est super bien passé. Le public m'a plutôt encouragé. Donc j'ai continué. Et là, maintenant, ça fait 4 ans que je me suis réorienté professionnellement et que je ne fais plus que ça.
Chouette. Donc malgré tout, c'est une passion qui prend ses racines dans l'enfance.
Voilà, tout à fait.
C'est toujours intéressant de savoir comment on vient à un art, finalement. Alors, la photo, c'est une chose, la photo, c'est le média. Ouais. Mais ton univers de photographe et de créatrice. Je parle de créatrice parce que c'est vraiment de la création. En tous les cas, l'exposition que tu présentes, les lames de l'âme, on va dire qu'il y a plusieurs supports de création.
Alors, je dirais que initialement, je pense que je suis une peintre frustrée. C'est-à-dire que je ne sais pas dessiner. Je rêverais de savoir dessiner. J'ai des enfants qui dessinent à merveille. Je ne sais pas dessiner. En tout cas, j'ai peur de prendre la plume, quoique je commence. Et comme je maîtrise mieux le médium photographique, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux me servir de ce médium-là pour réaliser mon rêve qui est de peindre? Et c'est comme ça que j'en veux. Partant d'un travail plus de photographe, plus conventionnel, on va dire, je me suis intéressée aux différentes techniques qui me permettaient d'arriver à un rendu proche de la peinture. Et les lames de l'âme, en termes de technique, sont plus proches de la peinture numérique que de la photographie. Même si je ne me sers que de matériaux photographiques, donc que de photos que j'ai prises moi-même, et puis que je vais triturer, superposer.
Oui, il y a un gros travail de post-prod. Il y a la prise de vue. Prise de vue en intérieur et en extérieur, je crois.
Alors, en fait, il y a un premier travail qui consiste à aller prendre des bouts de mur, des bouts de sol, des bouts de trucs et de machins. J'ai une grosse base de données de matière. Moi, j'appelle ça de la matière. Et après, il y a le travail de prise de vue en studio, où là, je vais prendre mes modèles. Mais avant, je vais dessiner mes cartes comme un pied, mais je vais le dessiner avec tout ce que je veux mettre dedans. Je vais créer mon décor à l'aide de mes matières. Et en dernière phase, je vais prendre en photo.
D'accord, tu mets.
Voilà, j'incruste mon modèle dans son univers et je le remodifie encore avec le pinceau numérique pour obtenir exactement ce que je veux.
Alors là, ce qui est présenté, donc cette exposition, ce sont les arcanes majeures
du tarot.
Pourquoi ? Bon, bah, voilà, j'imagine que tout le monde te pose la question. Voilà, bon, on va la poser comme ça, elle est faite.
Voilà. Bah, en fait, quand j'étais plus jeune, vers la vingtaine, je tirais les cartes. C'est un univers qui m'intéressait beaucoup. Alors, je suis toujours très partagée parce que je suis à la fois très rationnelle et un petit peu barrée sur certains côtés. Mais ce qui m'intéressait au-delà de ça, c'était la partie symbolique. Moi, tout ce qui est symbolique universel, qui va influencer nos comportements de façon universelle, parce que et de façon complètement inconsciente, sont des choses qui m'intéressent. Et le tarot est un des symboles forts qu'on retrouve dans tous les pays, dans tous les continents, à toutes les époques. L'origine est très très sombre. Moi, j'ai essayé de
il y a de multiples histoires d'origine.
Voilà, c'est pour ça que je ne sais pas quelle est la bonne. Je ne me prononce pas là-dessus. Et à la limite, je trouve que ça fait partie du rêve. Et c'est vraiment sur cette symbolique universelle. Et je trouve quand on tire les cartes, avant tout, on se pose des questions. Ça fait écho à notre histoire. Ça nous interroge et ça nous permet parfois d'avancer et de se poser les bonnes questions pour y répondre finalement. Mais c'est nous qui avons la réponse.
Alors cette interprétation en image, en photo, en peinture photo, je ne sais pas comment appeler, parce que c'est vrai que c'est vraiment un travail très très particulier que le tien et qui nous donne des images très oniriques, très fortes. On peut parler de peinture. C'est marrant parce qu'avec Kyriakos, l'invité d'honneur qui t'a précédé à ce micro. On a parlé aussi de peinture et on a aussi parlé de croquis avant de faire l'image. C'est comme quoi chaque année, d'abord les techniques sont différentes, les photographes sont différents, et c'est un travail qui est très cadré. On n'est pas sur l'instant, on est vraiment sur un travail de création en profondeur.
Alors, je pense qu'il y a deux démarches en photographie, en démarche artistique, on va dire plus largement. Et j'utilise les deux. Donc il y a effectivement la partie plus spontanée où c'est le photographe qui va avoir réfléchi en amont quand même à ce qu'il veut dire et qui va réussir à saisir l'instant qui répond à l'image qu'il veut proposer. Et ça, moi, je le fais quand je fais du reportage, par exemple. Et l'autre travail qui consiste à conceptualiser ce qu'on veut raconter. Et une fois qu'on l'a conceptualisé, pouvoir faire poser les gens. Mais là, dans ces cas-là, il faut les faire poser en studio. Parce qu'il faut pouvoir vraiment leur faire avoir la bonne expression, la bonne façon de se tenir, etc. Donc c'est vraiment deux démarches qui sont, de mon point de vue, différentes, mais complémentaires. Parce qu'au bout du compte, on arrive toujours à une image qui a été construite par l'auteur et qui a été réfléchie par l'auteur.
De toute façon. Tu parlais tout à l'heure de mélanger les techniques, même si c'était des techniques photo. Je reviens aussi encore un peu à cette histoire de peinture. C'est que je crois qu'actuellement tu travailles aussi sur un mélange entre photo et encre de Chine.
Oui, alors là j'en suis à mes tout débuts.
C'est des balbutiements, mais voilà, il y a une recherche. Ouais,
quand je disais j'ai envie de prendre les pinceaux et voilà, ça me travaille vraiment. Donc là j'ai commencé, je me suis rendu compte que l'encre de Chine, c'est pas si facile que ça. Donc j'ai comme bonne résolution d'aller prendre des cours pour apprendre à me servir. Parce que bon, j'ai fait des trucs rigolos, mais voilà, ça manque de maîtrise et je pense qu'il faut vraiment, ça nécessite un gros travail. Moi, je suis une grande fan de Gao Zijian, qui est un peintre qu'on appelle le peintre de l'âme d'ailleurs, qui fait des trucs absolument magnifiques. Et puis bon, après, quand je regarde ce que je fais, je suis c'est un peu tout pourri. Bon, clairement, non, je n'arriverai.
Fatigué, voilà. C'est pas grave.
J'arriverai peut-être pas à son niveau, puis c'est pas l'objectif. Je vais pas faire du tout la même chose que lui, mais voilà, ne serait-ce que de maîtriser un peu mieux les outils, parce que ça peut être de la technique. Si on n'arrive pas à la maîtriser un minimum, on peut pas obtenir le résultat qu'on souhaite.
Alors cette exposition, les lames de l'âme, donc qui est présente aux rencontres de la photo de Chabeuil, je vous rappelle qu'on est en direct au centre culturel des rencontres de la photo 2019. Cette exposition, il y a aussi des textes. C'est une espèce d'exposition complète. C'est vraiment un voyage. Tu nous emmènes en voyage dans ta lecture du tarot. C'est-à-dire qu'il y a l'image, mais il y a aussi du texte. Ce sont tes textes?
Oui, ce sont mes textes. Pour moi, j'ai souvent travaillé texte et image. Dans une exposition précédente, je travaillais sur les légendes grecques. Et donc, j'avais effectivement les photographies, puis derrière il y avait la légende grecque. Là j'ai voulu, en fait je fais parler chacune des cartes à la première personne. Le voyage démarre par le mât, qui est le voyageur du livre, qui va rencontrer chacune des arcanes, et faire connaissance avec ces personnages et acquérir les compétences, les qualités, à tout ce qui va lui permettre de continuer à avancer dans la vie. Et il terminera son voyage par le monde, qui est la réunification des principes féminins et masculins, la réunification également de ses contradictions internes, pour recommencer de nouveau le voyage, qui est un voyage continuel et indéfini. Alors on peut, effectivement, ça peut faire appel aussi au système de réincarnation d'une vie qui en appelle une autre.
Ou de cycles, tout simplement, dans nos vies. On sait tous qu'on a tous ressenti à un moment ou à un autre qu'il y avait des cycles qu'on croit ou pas à des énergies particulières. Mais en tous les cas, c'est effectivement ce cycle-là qui est... Tu disais, vraiment, ça commence effectivement, ça c'est à préciser, c'est que on a beaucoup d'expositions, qu'on les prenne dans un sens, dans l'autre, peu importe. Toi, tu nous dis qu'il faut vraiment, c'est bien de faire ce chemin, justement.
C'est un chemin, parce que c'est le chemin que va réaliser le mât. Cela dit, quand vous tirez les cartes, vous les tirez au hasard. Donc, on peut aussi finalement se permettre de regarder les lames les unes après les autres, dans le sens qu'on le souhaite. Mais je trouve que pour une première lecture, c'est intéressant de voir le cheminement de ce personnage qui, en fait, nous représente. Le mât, c'est nous.
Ben oui, c'est celui qui n'a rien, c'est celui qui
c'est le voyageur, c'est l'enfant qui naît, qui va démarrer dans la vie et qui va acquérir tout ce qui va lui permettre d'acquérir la maturité jusqu'à la sagesse, pour finir par mourir et refaire autre chose.
Tu nous parlais tout à l'heure de ton précédent travail autour des légendes grecques. Donc ouais. Il y a les légendes grecques, les tarots. C'est quoi ce qui est à venir, justement?
Alors, à venir, alors pour l'instant, déjà, il y a un projet qui est toujours lié au tarot. C'est-à-dire qu'il y a une éditrice qui, en voyant mes photos, m'a proposé de réaliser un tarot de divination en entier, donc les 78 cartes. Donc, j'ai dû réaliser les arcanes mineures, ça m'a pris un an.
Ouais.
Et normalement, il devrait sortir premier trimestre 2020.
Très bien, donc guetté.
Et donc, voilà, donc c'est plutôt sympa. C'est un petit coffret avec donc les cartes, les 78 cartes, un petit livret. Dans mes prochains projets, il y a le travail mixte entre la photographie et l'encre de Chine. Pour l'instant, je ne sais pas quelle histoire je vais raconter, parce que j'ai 50 idées et que entre la première idée et celle que je mets en œuvre, souvent, ça peut être très très différent. Donc, je préfère pas.
Pour l'instant, il y a des choses qui sont en germination, voilà. Et on verra ce qui pousse.
C'est pour l'instant, là, par exemple, sur l'encre de Chine, je travaille à la fois les paysages et en même temps les personnages. Donc, sur quel peut-être les paysages démoniaques, j'aime bien.
Très bien. Donc, on va guetter Justine Darmon. En attendant, tu es là toute la semaine?
Je suis là toute la semaine.
D'accord. Donc, Justine est là pour vous rencontrer toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à venir la saluer et à venir découvrir son exposition comme toutes les autres. C'est au Serre Gaillard. Donc, on va tous les jours. De 10h à 18h.
Je crois que c'est le samedi et le dimanche à 10h à 19h. Ah. Et en semaine, c'est à partir de 15h.
Voilà. Alors, Christiane l'a dit tout à l'heure, j'étais mauvais élève, j'ai mal écouté. Donc, à partir de 15h, vous pouvez venir découvrir, déguster ces rencontres de la photo. Merci beaucoup, Justine.
Merci beaucoup, Sylvie.
Et puis, ben, longue vie au tarot et à tout le reste.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Nous voici de retour sur les rencontres de la photo 2019 de Chabeuil, où on vient d'écouter le Taraf de Haïdouk avec The Bride with Red Dress. Tout à l'heure, je vous ai parlé du petit jeu que j'avais proposé aux photographes, à savoir de choisir, de nous proposer un extrait musical qui soit un petit peu l'illustration musicale de leur univers. Et là, ce qu'on vient d'écouter, ça nous permet d'ouvrir et d'accueillir Jean-Christophe Plat. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Qui propose au Serre Gaillard, lui aussi à Chabeuil, une exposition appelée L'âme voyageuse, et qui est une histoire de Tzigane, justement. Alors, on parle de, le Taraf de Haïdouk, ça va très très bien ensemble. Une histoire de Tzigane, c'est la communauté Tzigane au sens le plus large du terme, puisque tu t'es baladé d'Inde, dont, on dit que historiquement, les Tziganes viennent de là.
Voilà, supposés originaires de ce pays.
Et jusqu'en France, en passant par les Balkans.
Voilà, exactement. Oui.
Et combien de... Alors, cette balade en Tziganie, on va dire, au pays Tzigane, en pays Tzigane au pluriel, parce que les Tziganes sont pluriels, véritablement.
Bien sûr.
Outre le fait que, comme ça, de prime abord, on se dit, entre l'Inde et l'Ardèche, par exemple, pour parler de quelque chose qui nous est proche, c'est effectivement très différent, mais le peuple Tzigane lui-même est différent.
Bien sûr.
Et comment tu as démarré cette histoire?
Alors moi, ça s'est passé en fait un soir, en rentrant de chez des amis, sur le bord de la route, j'ai vu une roulotte. Avec à proximité de la roulotte un feu et pas mal de gens autour, les gens de la famille. Et bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça ces derniers temps, mais c'est quand même devenu très très rare dans nos contrées, en France en tout cas. Et donc je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter, puis je vais faire des images. Et puis en fait, c'était à la tombée de la nuit, donc je me suis dit non, je reviendrai demain. Je suis revenu le lendemain matin et donc j'ai rencontré le chef de la famille. Le feu était éteint cette fois-ci. Il y avait une flopée d'enfants dehors. Il y avait aussi des cousins. Il y avait aussi d'autres gens qui étaient là. Et je lui ai expliqué que moi j'étais photographe. Je lui ai demandé si je pouvais faire quelques images. Ouais. Il m'a dit, écoute, pas de problème, donne-moi 20 euros. Ouais.
Pragmatique.
Donc c'était, c'était un petit peu spécial, mais moi j'ai tout de suite expliqué l'histoire qu'il n'y avait pas d'argent. Si je faisais des images, en tout cas il n'y avait pas de notion d'argent. Effectivement, je pouvais peut-être ramener les images, enfin je ramènerais les images, et puis voir par la suite. Mais en tout cas, il n'y avait pas, je ne payais pas les gens pour faire
pour
faire des images. Ouais. Voilà, il m'a dit, écoute, vas-y, fais des photos avec les enfants. Et en fait, je suis reparti 4 heures après où j'avais photographié toute la famille, lui sur les chevaux, accru dans toutes les positions possibles et imaginables, tellement ces gens-là étaient fiers qu'on s'intéresse à eux. Et pour une fois qu'on s'intéresse à leur culture, que je vienne pas prendre leur poubelle en photo, quoi. Voilà. Et c'est la remarque qu'ils m'ont fait justement. Ah ben, pour une fois que quelqu'un s'intéresse à notre culture, à ce qu'on vit, à notre quotidien.
Alors tu parles de culture et ça me fait rebondir sur le début du voyage, puisque prenons le voyage par son début géographiquement, on va dire, et historiquement, où c'est l'Inde, c'est notamment le Rajasthan, où tu es allé rencontrer différents clans, différentes familles aussi, et où ce sont pour beaucoup, en tous les cas, dans ce qui est montré au travers des photos, ce sont des gens qui vivent de l'art, de différentes formes d'art. C'est quelque chose qui est traditionnel, ou est-ce que c'est un hasard?
Non, c'est quelque chose qui est complètement culturel. Et moi, j'ai essayé justement de faire ces connexions, de faire ces passerelles qu'il y a entre les Tziganes d'Inde et les Tziganes de chez nous. Pourquoi chez nous ils sont ferrailleurs, ils récupèrent la ferraille? Pourquoi ils sont musiciens? Pourquoi ils sont saltimbanques? C'est parce que déjà depuis leur pays d'origine, d'où ils sont partis, ils l'étaient déjà. Et ils étaient dans plein de petits métiers comme ça, souvent artistiques, mais pas que. Comme je vous disais aussi, des forgerons, ils fabriquaient des armes pour les maharajas. C'était des gens qui étaient dans différentes catégories socio-professionnelles, mais qui étaient actifs. Il y avait aussi des gens qui étaient mendiants, qui la mendicité, elle était et elle est toujours en Inde culturelle, ce qui explique pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent à 6h du matin pour aller mendier. C'est aussi un véritable
travail. Il y a l'histoire des castes aussi en Inde qui joue
l'histoire de castes, bien sûr, énormément qui jouent, mais et qui expliquent un petit peu, mais ils sont pas effectivement la majeure partie sont quand même dans des castes sociales, enfin qu'on appelle les intouchables. Mmh. Donc ils font même pas partie des castes en fait. Ils font même pas partie du système des castes. Ils sont hors caste. Et visiblement, ça reste quand même que on me l'a fait remarquer ce matin et je tiens à le noter et je l'ai marqué dans mon livre. Ça reste des suppositions. Mmh. On n'est pas sûr de cela. Il n'y a jamais eu de travail très sérieux fait par les ethnologues ou anthropologues. Donc ça reste des suppositions, mais quand même des fortes suppositions quoi.
Alors quand tu pars en Inde comme ça pour alors on précise quand même ce n'est que du noir et blanc. Oui. Ah, ça a été un choix délibéré dès le départ ou est-ce que c'est venu, ça s'est avéré, enfin bon, c'était une évidence pour toi quand tu as commencé en fait.
C'était une évidence, enfin un choix dès le départ ou une évidence, ça va se rejoindre. Car c'est des gens qui ont voulu rester dans un mode culturel, en tout cas traditionnel, même si certains ont des belles caravanes, même si certains ont des belles voitures. Dans leur pensée, leur pensée est restée très traditionnelle. Et donc le choix du noir et blanc s'est imposé dès le départ pour cette notion d'intemporalité dans la culture tzigane en fait. Mmh. Et c'est voilà.
Alors quand tu pars en Inde, voilà, tu pars en Inde, comment ça se passe ? Parce que autant là tu nous dis voilà, j'ai vu sur le bord de la route, je me suis arrêtée, donc c'était en France.
Oui.
En Inde, d'une part il y a la langue, il y a la barrière de la langue, et puis comment rencontrer justement ces familles ?
Alors il faut savoir déjà qui sont ces familles tziganes. Oui. Voilà, donc il y a toute une recherche à faire déjà au préalable en France. Dans des ouvrages, hein, dans les certains travaux d'ethnologues, d'anthropologues, et puis après comment les rencontrer en Inde, ça c'est des choses que j'ai appris à faire par le temps et puis avec l'expérience. Voilà, après.
Et à chaque fois tu t'installes.
Tu t'installes,
c'est-à-dire que tu prends le temps de t'installer avec
ah,
eux.
Ah oui,
parce qu'on
ne fait
pas les photos, les clichés que tu as fait, c'est pas des bien clichés sûr, qu'on oui, fait comme oui, ça à la, oui, à
comme,
la volée.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas au zoo. Chaque fois, c'est une immersion avec ces gens-là. C'est pas, je veux pas voler des images et hop, vite partir en disant c'est bon, j'ai mon image. Non, c'est chaque fois un travail de fond, un travail où je vois les familles, je retourne les voir. J'ai rapporté même en Inde des photos que j'avais fait avec certaines familles. Je vais manger avec eux. Enfin, on mange ensemble, on partage des choses ensemble pour essayer d'être au plus proche de la vérité en fait.
Et tu parlais de fierté tout à l'heure, est-ce qu'à chaque fois tu as justement ce retour de leur part
par rapport
de la fierté
énormément
aussi de tes images, parce que tes images sont très les images sont très très belles. Par contre elles ne sont pas toujours elles sont très vraies, elles sont très crues,
elles sont nature
aussi, voilà,
elles sont nature parce
non.
que pardon
non mais je t'en prie,
elles sont très nature parce que c'est ce qu'ils m'ont montré d'eux-mêmes, et c'est parce que moi je partage un quotidien aussi. Je suis pas là dans le après j'ai pas vécu 10 ans avec eux, hein.
On s'entend bien.
On l'entend bien, mais j'ai passé des semaines avec eux par exemple où là les gens deviennent nature, et c'est là où moi en tant que photographe, je saisis ces instants-là, pardon, et je les mets en image.
Alors, est-ce que tu as commencé toute cette série par le commencement, justement par l'Inde, et puis après tu es allé dans les Balkans, et puis après tu disais que tu as démarré effectivement avec cette famille en France.
Voilà, avec cette famille en France.
Et tu as fait.
Alors, je voulais effectivement faire ce voyage, retracer cette migration millénaire qu'ils ont effectuée auparavant. Mais il y avait des problématiques géographiques et surtout politiques au niveau des pays comme le Pakistan. Qui est quand même un pays compliqué en tant qu'Européen et en tant que photographe. l'Iran, c'était pas forcément simple, ça aurait pu se faire, mais en tant que photographe aussi, ça, oui, c'est quand même.
On n'est pas forcément bienvenu.
Voilà, c'est quand même compliqué, où on va quand même s'interroger sur votre présence, le pourquoi du comment. Donc moi, j'ai recommencé. Enfin, alors, donc ça a été plusieurs voyages, des voyages en Inde, plusieurs voyages dans les Balkans. Et j'ai recommencé mon travail à partir de la Turquie. Voilà, en passant par la Turquie, la Roumanie, la Moldavie, la Macédoine, la Bulgarie. Voilà.
Et la France, pour arriver à France.
Et puis pour arriver en France.
Parce qu'on connaît très très mal finalement le peuple tzigane. On les connaît assez mal, on en connaît des caricatures. Mais ils sont en France. Alors il y a plusieurs, là c'est pareil, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs branches, on va dire. Et ils sont installés, ceux que tu es allé voir, ceux que tu es allé rencontrer, ils sont installés où à peu près?
Les Tziganes, en fait, ils couvrent vraiment tout le territoire français. Hein. Justement, en venant à l'exposition ici, il y a quelques familles aussi de voyageurs. Là, il y a deux, trois terrains qui sont à côté. On les trouve de partout. Après, l'appellation Tzigane, c'est un petit peu le mot générique qui regroupe en fait les Gitans, qui sont en plus une appartenance géographique au sud, en débordant sur les Gitans catalans qui sont en Espagne, les Marnouches, qui représentent toute la partie plutôt au nord de la France et ouest, les Sinti, Sinto, qui aurait plus une origine, qui serait plus sédentarisé sur le Piémont italien, en dépassant aussi géographiquement cette zone vers le nord, dans le bassin de l'Alsace-Lorraine, ouais. Voilà. Mais après, c'est tous des tziganes.
C'est des nomades et ça reste. Bon. Certains sont sédentarisés de plus en plus.
En fait, la plupart sont sédentarisés. Nous, on veut toujours s'attacher un petit peu à cette idée qu'ils sont nomades, mais en fait, il en reste très très peu de nomades. On parle peut-être de... Les chiffres sont assez vagues parce que c'est des semi-nomades. Mmh. Voilà, c'est des gens qui ont quand même, pour pas mal d'entre eux, ils ont des terrains, mais ils dorment dans la caravane. Et dès que vient les beaux jours, ils ont des activités souvent ambulantes.
Et qui leur permettent
de se déplacer avec les marchés, les circassiens. Après, il faut savoir qu'il y a un angle religieux qui est très fort et qui est très dominant chez les Tziganes. Et aux bonnes périodes, ils partent faire leur pèlerinage.
Oui, il y a une photo d'ailleurs, au Sainte-Marie.
Au Sainte, oui, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a deux ou trois. Ouais. Les saintes avec les chrétiens. Effectivement, cette image, je ne l'ai peut-être plus. Mais il y avait une photo avec les missions évangéliques aussi. Voilà.
Alors, c'est un travail ça dure depuis combien de temps, ce travail-là?
C'est un travail qui s'est effectué quand même sur assez peu de temps, vu, je dirais, la dimension géographique du travail. Sur une petite période de 2 ans, entre 1 an et demi et 2 ans. Mais par contre, pendant 1 an et demi et 2 ans, c'est vrai que j'étais très actif. Ouais, les voyages se sont enchaînés. Enfin, moi, j'étais arrivé sur mon sujet et j'ai pas forcément laissé de place. De place pour autre chose. J'étais sur mon sujet, j'enchaînais les voyages, mon tri d'images, avec un travail d'écriture aussi un peu derrière.
Et alors aujourd'hui, ce travail, il vit de quelle manière? Il vit au travers des expositions? Il y a un livre?
Il y a un livre, bien sûr, oui, que vous pouvez consulter si vous venez voir l'expo au Serre Gaillard, qui a fait l'objet d'un livre. Après différentes expositions, il a été présenté dans différents lieux. Il a eu quand même il a été présenté il y a 2 ans au festival de Visa pour l'image, en tant que il a été projeté, donc enfin une certaine reconnaissance de
Tu continues dans ce travail là ou tu vas partir sur un monde total après une immersion aussi importante et dense, parce que c'est pas anodin vraiment comme rencontre.
Oui.
Tu pars vers
Alors, je suis déjà parti, revenu et reparti. Je suis parti vers quelque chose de beaucoup plus léger, c'est-à-dire que j'ai fait un travail sur le Gange, voilà, qui est vraiment le fleuve spirituel du monde, hein, donc un travail vraiment beaucoup plus dans la spiritualité. Et puis donc il y a aussi un nouveau livre qui est sorti par rapport à ce travail photographique. Et là je me suis rendu compte que en fait je pouvais sortir de chez moi et faire des images. Donc là je fais tout simplement un voilà, c'est magique, c'est superbe, c'est je peux pratiquement faire des images de ma terrasse. Et je fais un sujet sur le Trièves parce que j'habite actuellement maintenant dans le Trièves. Et je projette d'éditer un livre là pour 2020 sur le Trièves.
Super. Alors voilà. En attendant de partir sur les bords du Gange ou dans le Trièves, moi je vous conseille vraiment de venir suivre ces Tziganes avec Jean-Christophe Plat. Vous retrouvez cette exposition L'âme voyageuse, c'est au Serre Gaillard, donc dans le cadre des rencontres de la photo de Chabeuil 2019. Et puis ben, on va te laisser repartir parce qu'il faut savoir que les Serre Gaillard, comme disait Christiane tout à l'heure, c'est à mi-chemin entre Valence et Chabeuil, et que donc Jean-Christophe repart très vite pour vous accueillir au Serre Gaillard. Tu es là toute la semaine ou
non,
tu es là que le week-end?
Que le week-end, ouais. D'accord. Avec le week-end prochain aussi.
Très bien. Donc venez sur les week-ends si vous voulez rencontrer Jean-Christophe et sinon bah, vous pouvez voir ses photos de toute façon. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci Sylvie.
Radio BLV, grand direct.